Bonjour Gaëlle Nohan.
Bonjour.
Page 301 de L'homme sous l'orage. Le nœud de l'intrigue est ainsi résumé. S'aimer quelques jours, quelques semaines au cœur du massacre relève du miracle et les miracles ont un prix. On va procéder par ordre. De quel massacre parle-t-on ?
On parle du massacre de la Grande Guerre.
Première guerre mondiale donc.
Première guerre mondiale.
Le précédent livre se passait durant la Seconde Guerre mondiale. Ici donc on fait un petit saut en arrière.
Oui, et en même temps en arrière, et en même temps cette grande guerre pour moi c'est la première guerre moderne. La nécessité de cette histoire c'était aussi les guerres modernes qui reviennent dans nos vies et dans nos têtes.
C'est vrai qu'il résonne étrangement ce livre et toutes les questions que vous relevez. Pendant cette Première Guerre mondiale, vous nous racontez donc l'histoire d'amour entre Rosalie, jeune fille de très bonne famille, et Théodore, un peintre enrôlé dans la guerre qui a déserté. Et l'impossibilité de l'amour se loge là, dans cette désertion qui est un thème très important du livre. Est-ce qu'on a le droit de déserter ? Pourquoi le fait-on ? Ce sont des questions qui vous sont venues ?
Oui, c'est des questions que je trouve, c'est un peu un angle mort le déserteur. Personne n'a envie d'admettre le point de vue d'un déserteur parce que la guerre repose sur le consentement de collectif à la guerre. Et on voit que là aujourd'hui, il y a par exemple pour la guerre en Ukraine, il y a des déserteurs en Russie, il y en a en Ukraine. Et personne n'est prêt à les comprendre, c'est très compliqué. Ça reste très compliqué, toujours aujourd'hui. C'est un personnage un peu oublié, en tout cas dans la littérature, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelqu'un qu'on considère comme lâche a priori, sans savoir rien de ce qu'il a vécu ni de ses raisons.
C'est vrai qu'il y a cette très belle chanson de Boris Vian, Le Déserteur, et pour autant, ça reste comme un tabou.
Ça reste un tabou, alors sachant quand même que le déserteur de Boris Vian, c'est un refus d'aller à la guerre, c'est encore autre chose, et que la Grande Guerre, c'est vraiment une guerre du consentement collectif. Donc, en ce qui concerne Théodore, mon personnage, il a d'abord consenti à la guerre. C'est un homme qui s'arrache à un moment donné à la guerre, on comprend pourquoi dans le livre, mais qui, dans un premier temps, l'a accepté cette guerre.
On a beaucoup écrit sur la Première Guerre mondiale et sur la boucherie qu'elle a été, ce qui est très présent ici aussi, mais vous insistez aussi sur les enjeux moraux. On peut être indemne physiquement et pour autant ravagé de la même façon.
Mais là, c'est pareil, ça touche au fait que qui est prêt à admettre vraiment aujourd'hui que la guerre abîme tous ceux qui la font à jamais ? En tout cas, dans la Grande Guerre, personne n'était prêt à l'accepter, même mentalement, à l'envisager. Et donc, il fallait vraiment que les traumatismes soient, que quelqu'un soit défiguré ou qu'il ait l'air complètement fou pour qu'on puisse admettre, en pinçant la bouche, qu'il avait pu être un peu abîmé dans cette guerre. Et s'il est abîmé, c'est qu'il était faible. Voilà. Alors que là, je m'intéresse donc à des soldats lambda, des soldats qui n'ont pas un traumatisme apparent, mais qui reviennent quand même démolis de l'intérieur.
Théodore est peintre à une époque de très grande invention artistique avant donc de partir à la guerre, ce qui donne de très belles pages sur la peinture dans ce livre. Est-ce la raison pour laquelle aussi vous avez choisi de placer cette histoire durant la Première Guerre mondiale ? Parce que c'est aussi une époque qui vous intéressait artistiquement ?
Absolument, c'est une époque où juste avant la Grande Guerre, il y a vraiment une effervescence artistique extraordinaire. Avec des mouvements artistiques qui naissent sans arrêt, vous avez en très peu d'années, le fauvisme, le cubisme, l'expressionnisme, le futurisme, le vorticisme, enfin il y en a plein. Et tous ces mouvements, ce sont des jeunes gens qui chaque jour réinventent la modernité et sa définition, qui expérimentent de tous côtés, qui se connaissent, tissent des amitiés profondes, vont s'admirer d'une capitale européenne à l'autre, sont stimulés les uns par les autres et du jour au lendemain, la guerre va briser cette effervescence nette, les ramener tous à leur identité nationale la plus stricte et en faire des ennemis. Et c'est une tragédie particulière au sein d'une grande tragédie.
Alors parmi les autres thèmes du livre, il y a la place des femmes, ou plutôt la place que l'on veut bien laisser aux femmes pendant cette guerre. Isor, la mère de Rosalie, prend les rênes du domaine viticole pendant que son mari est à la guerre. Ça doit a priori se borner à cette période-là. Les femmes, oui, mais donc à une durée limitée, quoi. C'est ce que vous racontez aussi dans ce livre.
Voilà, en fait, d'une certaine manière, la guerre, c'est d'une part des fardeaux nouveaux pour les femmes qui ont tout à porter, qui ont à tenir littéralement le pays à la force de leur mental, de leur énergie, etc., à se réinventer, à s'adapter. Ce que les femmes ont toujours su très bien faire, d'ailleurs. Et elles y gagnent une autonomie nouvelle, elles y gagnent des aspirations nouvelles, de la liberté, y compris physique. Ça change leur rapport à leur corps, aux vêtements, à tout, parce que travailler, on ne peut pas le faire avec un corset, pas plus que travailler la vigne. Et en même temps, au retour des soldats, on va leur dire « Rentrez donc chez vous, mesdames, merci ». Enfin, quand on leur dit merci. Et cette chose est très amère, parce que derrière, cette liberté leur est retirée en grande partie. Et ça m'intéressait beaucoup du point de vue du cheminement de la liberté des femmes dans l'histoire.
Il y a donc plein de thèmes qui résonnent de façon très contemporaine, alors que c'est un roman historique. Elle est venue d'où, cette histoire, vous, justement ? Comment c'est né, tout ça ?
En fait, le domaine viticole où l'histoire se passe appartenait à mon arrière-grand-mère. Moi, je l'ai bien connue. J'y ai passé des vacances jusqu'à mes 15 ans, à peu près. Après, ce domaine a été plus tard vendu. Enfin, voilà. Je suis retournée dans ce château pour la première fois depuis mes 14 ans. C'est un peu un château fantôme pour moi aujourd'hui. Et dans ce château, il y a toujours un grand tableau sur lequel étaient peints des membres de ma famille, dont mon arrière-grand-mère jeune fille. Et cette jeune fille peinte ressemblait pas du tout à la vieille dame que j'ai bien connue, mais qui avait l'air très sage comme ça, et dont la vie paraissait lisse et sans aspérité, et dont j'ai découvert après sa mort qu'elle avait eu des secrets. Et ça m'intéresse beaucoup, ces vies qui en apparence sont lisses, et en fait quand on s'approche assez près, on s'aperçoit que c'est pas du tout lisse, et qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des batailles, des renoncements, des audaces, des secrets. On m'avait dit à l'époque que c'était un peintre roumain qui avait peint ce tableau, un peintre que ma famille avait reçu pendant la Grande Guerre. Et l'enfant que j'étais a déformé cette histoire dans sa mémoire, et dans ma tête, c'était mon arrière-grand-mère jeune fille qui avait caché un soldat déserteur. Quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais cette histoire est beaucoup mieux que la vraie.
La romancière était déjà là.
Oh, voilà. Et comme c'est déjà une fiction, pourquoi ne pas la raconter ? Elle avait le mérite de permettre plein de questionnements, y compris des questionnements contemporains, à travers des personnages qui sont inspirés pour certains de membres de la famille, de ma famille, mais je me suis accordé une liberté totale pour en faire des personnages.
Ces personnages, ils ont tous des intérêts différents, des enjeux antinomiques, mais on les comprend tous. Vous faites en sorte que le lecteur reste en empathie avec chacun d'entre eux. C'était important pour vous de ne pas prendre parti, de faire les gentils et les méchants ?
Oui, moi je pense que beaucoup de choses sont une question de point de vue. Il n'y a pas de personnage mauvais, il y a juste des points de vue. Et c'est ça qui me passionne dans le roman. C'est justement cette magie du point de vue. Vous trouvez quelqu'un de détestable et tout à coup, vous êtes dans son point de vue et ça change tout. Et je suis persuadée qu'on se comprendrait bien mieux et qu'il y aurait moins de guerre si on pouvait accéder au point de vue des autres. Et dans ce livre, j'ai eu envie d'aller vers une forme de complexité, de montrer combien chacun est complexe et contradictoire parfois. Et c'est vraiment un livre sur l'intériorité, sur les malentendus, sur les désirs empêchés, les désirs qu'on s'autorise et la liberté qui cogne et qui demande sa place.
Gaëlle Noa, vous signez L'homme sous l'orage chez L'Iconoclaste, une exploration des passions, une réflexion sur les choix, et puis un très joli texte assez atypique dans cette rentrée littéraire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.